Comme je vous le disais en introduction, nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Farah, qui est maître de conférence à l'Université de Dijon. Emmanuel a accepté de venir jusqu'ici alors qu'il a un emploi du temps qui est chargé. Il est en train de me dire qu'il allait aller sous peu justement dans la vallée de l'Omo dont je parlais tout à l'heure. Mais il a accepté parce qu'on se connaît depuis quelque temps et qu'on fait aussi des choses ensemble. Mais c'est lui qui fait la conférence, pas moi, donc je lui laisse la parole.
Merci. Attendez, j'ai encore rien dit. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous prendre la suite du professeur Brunet pour vous parler un petit peu de ce que l'on peut dire des paléo-environnements, des environnements anciens des premiers hominidés. Et la science se fait souvent en équipe. La reconstruction des paléo-environnements, c'est un travail qui est obligatoirement en équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis que le porte-parole d'un groupe d'une centaine de chercheurs qui ont tous, par leur expertise, contribué et qui continuent à aider à reconstruire les environnements anciens. Alors, la question fondamentale, c'est de la photo de terrain qui est montrée en haut de cette image, aux fossiles qui sont collectés sur ce terrain, qui sont analysés, qui sont identifiés. Comment est-ce qu'on passe à cette reconstruction? Comment est-ce qu'on arrive à reconstruire les paysages passés? Quelles sont les techniques employées? Alors, il en existe de très nombreuses, et aujourd'hui, on va en voir une qui est assez quantitative, assez statistique, mais je vais essayer de présenter ça de manière la plus conviviale possible, en espérant atteindre ce but. Avant de voir comment reconstruire les paléo-environnements, il est très important de savoir déjà pourquoi est-ce qu'on les reconstruit. Alors, il y a diverses réponses à cette question. La première, c'est de comprendre l'évolution de ces environnements anciens à diverses échelles de temps et d'espace. D'une part, pour comprendre quel est le lien de l'évolution de ces environnements avec l'évolution du climat, avec l'évolution des êtres vivants. Et puis aussi, et c'est ça peut-être l'un des points les plus intéressants parce qu'il est d'actualité aujourd'hui, c'est de voir comment ces environnements ont évolué, comment est-ce qu'ils étaient structurés avant l'impact des sociétés humaines modernes. C'est-à-dire, vous comprenez dans le contexte actuel pourquoi il est intéressant de voir comment les paysages qui ont orné notre planète ont changé, évolué, à quelle vitesse, dans quelle région, pour quelles raisons. Et puis, dans le cadre de ces séminaires, il est évidemment très important d'essayer de resituer nos ancêtres, notre histoire, comment les premiers hominidés et dans quel type de paysage ces premiers hominidés ont vécu et sont apparus. Alors, ceci est très important puisque, comme le rappelait le professeur Brunet il y a un instant, on disait souvent que la savane avait fait l'homme, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur l'émergence de la lignée humaine, et les paléo-environnements sont au cœur de ces problématiques. Il est donc nécessaire d'apporter des nouveaux éléments de réponse à toutes ces problématiques. Alors maintenant qu'on sait pourquoi reconstruire les paléo-environnements, je vais faire un bref survol des différentes techniques du comment, des techniques utilisées pour reconstruire ces paléo-environnements. Une première série d'indices, ce sont les études sédimentologiques. On étudie les sédiments, on regarde leur structure. Par exemple, sur la photo à gauche, on peut observer des dunes fossiles qui traduisent évidemment un milieu désertique qui nous donne directement une information sur une composante du paysage à l'époque, ici, dans le Miocène du Tchad, il y a environ 7 millions d'années. On peut regarder également d'autres types de sédiments, comme des diatomites, par exemple, qui contiennent en plus des poissons fossiles. Évidemment, ici, il s'agira de milieux aquatiques. Vous voyez que ces analyses sont simples, mais apportent des éléments très évidents, très forts, très robustes, pour comprendre certaines composantes du paysage. Autre technique, on l'a brièvement mentionné tout à l'heure, ce sont les techniques bio-géochimiques, c'est-à-dire on va regarder les isotopes stables du carbone, de l'oxygène, mais également de l'azote, du strontium, etc., qui sont des éléments qui vont être intégrés par les différents êtres vivants, les plantes et les animaux. Et on peut, à partir de ces éléments, par exemple enregistrés dans l'émail des grands mammifères, reconstruire les paléotempératures et également la végétation, le régime alimentaire et donc une partie du paysage qui était exploité par ces animaux. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure également, utiliser les motifs d'usure dentaire, comment les dents sont usées. Elles ne le sont pas de manière aléatoire, elles le sont en fonction de la nourriture qui est ingérée. Cette nourriture, c'est pour les herbivores de la végétation, on peut donc déduire la nature de cette végétation. Donc de fil en aiguille, on peut ainsi reconstruire ce paysage et ses différentes composantes. Lorsque l'on a la chance d'avoir des plantes directement fossilisées, des plantes fossiles, ou leurs restes, des pollens parfois, des phytolithes, eh bien on a là encore une information directe sur la nature même de ces plantes. On peut aller plus loin que dire simplement qu'il y avait de la forêt ou de la savane, on peut dire quelles sont les essences végétales qui étaient présentes dans ces environnements. Et puis ce qui va nous intéresser pour le reste de cette présentation, c'est les faunes, l'étude quantitative des faunes fossiles que l'on retrouve et à partir desquelles on peut également reconstruire le paléo-environnement et mieux comprendre notamment celui des premiers hominidés. Alors il y a deux manières d'étudier ces faunes. On peut regarder chacune des espèces une par une, observer son squelette, sa dentition et essayer de trouver son habitat et ses préférences alimentaires ou locomotrices. On peut également regrouper toutes ces espèces, regarder la faune qu'elles forment ensemble, et c'est ces techniques-là que nous allons aborder maintenant. Alors, simplement, je vais utiliser un certain type de vocabulaire qui est très commun. J'en rappelle simplement quelques définitions parce que c'est important pour la suite. On va beaucoup parler de communauté, notamment animale. Une communauté, c'est tout simplement un ensemble d'espèces qui vivent au même endroit, au même moment, et qui ont des interactions écologiques les unes avec les autres. À ne pas confondre avec un assemblage, qui est l'outil dont disposent les paléontologues pour reconstruire les communautés d'origine. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble des espèces, mais cette fois-ci fossiles, que l'on a retrouvées, mis au jour, et que l'on exploite pour analyser différentes facettes de la science. On parlera également brièvement de richesse et d'abondance, qui sont deux notions d'écologie assez simples à comprendre. La richesse, c'est tout simplement le nombre d'espèces différentes dans un lieu et à un temps donné, alors que l'abondance correspond au nombre d'individus qui représentent chacune de ces espèces. Donc voilà quelques notions qui sont celles que l'on manipule pour reconstruire la paléoécologie, l'écologie ancienne de toutes ces espèces disparues, en partie disparues. Alors, une fois ces bases établies, je vais vous présenter quel est le principe de la démarche des paléoécologistes. Ce sont simplement les paléontologues qui essayent de reconstruire l'écologie ancienne, les environnements et les interactions entre les espèces. Alors, le principe fondateur de la paléoécologie, de l'écologie ancienne, c'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme ou d'uniformitarisme. Ce principe, c'est tout simplement le fait qu'on considère, on admet que les lois qui régissent les processus biologiques, mais aussi géologiques actuels, étaient quasiment les mêmes dans le passé, parfois même dans le passé lointain ou très lointain. C'est-à-dire que l'on va utiliser ce que l'on sait de l'écologie actuelle, du monde vivant actuel, comme un référentiel pour pouvoir interpréter les... passé. Ceci, évidemment, c'est une démarche de routine, j'allais dire, qui n'est pas sans poser de problème. On le verra peut-être tout à l'heure. Mais par exemple, dans l'image que je vous montre ici, vous avez à gauche une physe et un planorbe, c'est-à-dire deux mollusques gastéropodes qui aujourd'hui vivent exclusivement en eau douce. On les retrouve évidemment à l'état fossile et donc ils sont des marqueurs de milieu d'eau douce. C'est tout simplement ce transfert que l'on fait parce qu'on suppose que ce groupe n'a jamais changé de milieu depuis les quelques dizaines de millions d'années. Et ceci peut être vérifié par d'autres arguments. Donc ce principe d'actualisme est rarement pris en défaut. Il peut l'être dans certaines occasions, dont on aura certainement l'occasion de parler. Alors, une communauté, par exemple une communauté de mammifères, une communauté mammalienne, ce sont plein d'individus appartenant à différentes espèces, symbolisées ici par des petits points de différentes couleurs. Ce qui nous intéresse en tant que paléoécologistes, c'est de regarder la structure de cette communauté. Alors, une structure d'une communauté, ça s'étudie selon quatre angles différents. Elle présente quatre facettes complémentaires. La première de ces facettes, c'est ce qu'on appelle la diversité écologique de la communauté. Alors, la diversité écologique, elle correspond à l'abondance relative de différentes catégories écologiques. Dit de manière plus simple, on va regarder simplement quels sont les types de régimes alimentaires et dans quelle proportion est-ce qu'ils sont représentés, combien il y a de carnivores, de mangeurs d'herbes, etc. Regarder les différentes catégories de masse corporelle, des plus petits aux plus gros. Regardez également les différents types de locomotion, on parlait tout à l'heure de bipédie, d'arboricolisme, etc. Regardez les proportions de ces modes locomoteurs parmi les espèces que l'on retrouve. Régime alimentaire, masse corporelle, locomotion, ce sont parmi les trois grands paramètres que l'on utilise pour étudier cette diversité écologique. Celle-ci, eh bien, elle dépend directement de la structure de l'environnement, tout simplement parce que cet environnement contient les fameuses niches écologiques dans lesquelles évoluent les êtres vivants que l'on étudie. Alors ceci est très important parce que cette approche ici, qui ne tient compte que des différentes catégories écologiques, on ne s'intéresse qu'à certains types de régimes alimentaires, à certains types locomoteurs, on ne s'intéresse pas à l'espèce en elle-même. À la limite, si on ne connaît pas son nom, ce n'est pas trop grave. Ce qui nous importe, c'est de savoir si elle est carnivore ou si elle vit dans les arbres, ou etc. Tout simplement parce qu'on a remarqué que cette structure écologique est presque indépendante de la nature même des espèces qui la composent, mais par contre, elle est directement corrélée au type de milieu et de type d'environnement dans lequel ces animaux vivent. Pour illustrer ceci, on peut montrer ce qu'on appelle la convergence écologique, c'est-à-dire que vous pouvez regarder des mammifères placentaires et des mammifères, des marsupiaux, qui n'ont rien à voir, qui ce sont deux groupes qui sont séparés depuis bien longtemps, qui vivent parfois dans des zones géographiques très éloignées, et vous pouvez voir que ces mammifères ont tous des représentants qui occupent certains types de niches écologiques, qui représentent certains types d'environnements. Ils ont convergé indépendamment vers les mêmes types de masse corporelle, vers les mêmes types de modes locomoteurs, vers les mêmes types de régimes. Et on trouverait exactement la même chose, par exemple, chez des communautés de mammifères en Afrique ou en Amérique du Sud, avec des mammifères qui ne sont pas proches parents, mais qui occupent exactement les mêmes types de niches écologiques. Donc c'est pour ça que la diversité écologique des communautés est un signal très très fort qu'il est très important de déterminer puisque il marque véritablement le type d'environnement et marque les espèces de ce cachet environnemental. Outre la diversité écologique que l'on vient de traiter, il est également très important d'étudier ce que l'on appelle la structure taxinomique des communautés. Il s'agit tout simplement d'étudier les différentes abondances relatives des différentes espèces. combien d'individus représentent telle espèce. Les carnivores pourraient peut-être être représentés par un seul ou quelques individus, les herbivores, les grands herbivores par tant de dizaines ou de milliers ou de centaines ou une poignée peut-être d'individus, etc., etc. Donc c'est simplement les abondances ici que l'on étudie, tout simplement parce que ces abondances sont elles aussi caractéristiques d'un type d'environnement donné. Et elles sont d'autant plus caractéristiques que la niche écologique occupée par ces espèces est étroite. On peut évidemment, et c'est l'une des premières étapes que l'on pratique en général, puisqu'elle est la plus simple à réaliser, l'étude de la composition taxinomique. On regarde simplement, au sein de nos communautés, quelles sont les espèces présentes ou absentes. C'est un simple panel pour pouvoir comparer une communauté avec une autre, pour pouvoir comparer une région avec une autre et les environnements afférents également. Enfin, dernière et quatrième facette de cette structure phonique que l'on étudie, c'est la richesse taxinomique. On en a déjà parlé. La richesse, comme je vous le disais, c'est simplement le nombre d'espèces représentées au sein des communautés que l'on étudie. Alors cette richesse, elle apporte une information très simple, qui est bien connu des écologistes aujourd'hui, c'est que plus votre milieu est hétérogène, plus il contient de niches, et plus donc il va contenir d'espèces. C'est-à-dire qu'un environnement qui est hétérogène sera plus riche qu'un environnement homogène. Ça sera important parce qu'on le verra pour les environnements des premiers hominidés, s'ils sont hétérogènes ou homogènes, on pourra le détecter en analysant cette richesse taxinomique. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, je vais simplement me focaliser sur quelques études qui concernent la diversité écologique, et on ne va pas prendre non plus toute la faune, on va se focaliser sur les faunes de mammifères, qui sont parmi les vertébrés ceux qui ont un registre fossile les mieux préservés, notamment par leurs dents et certains éléments de leur squelette. Alors, avant d'aller voir ce qu'il se passait il y a environ 7 millions d'années, regardons d'abord si ça marche bien dans l'actuel, toutes ces techniques d'analyse phonique. On peut prendre par exemple une forêt tropicale, ici au Nigeria, et puis un parc beaucoup plus ouvert du Serengeti, deux milieux complètement différents. On analyse la faune, les communautés mammaliennes qui sont présentes dans ces deux types d'environnements. Et on va s'intéresser ici à un seul paramètre, leur mode de locomotion. Ceux qui sont aquatiques, fouisseurs, terrestres, arboricoles, etc. Et on regarde leur proportion relative dans la communauté. Et bien, vous voyez très nettement que ces milieux différents ont bien des profils différents, ce qui nous permet d'utiliser ces types de profils pour marquer ces environnements. C'est-à-dire que cette signature, elle est très profonde et elle n'affecte pas seulement un ou deux animaux, un ou deux mammifères, mais bel et bien la communauté dans son ensemble. Alors, à la fin des années 70, au début des années 80, ces techniques ont été utilisées en routine, c'est-à-dire que l'on avait défini tous les spectres écologiques de très nombreux milieux actuels, des communautés de mammifères actuelles dans les grands parcs africains, et on montre que ces profils sont très différents entre une forêt fermée et une savane très ouverte, forcément. Et on s'est donc concentré à comparer les spectres écologiques que l'on observait dans les assemblages fossiles avec ce référentiel actuel, pour pouvoir essayer évidemment de déduire le type d'environnement et de paléo-environnement correspondant à ces assemblages fossiles. Donc voilà les techniques qui ont fait naître la paléoécologie quantitative des communautés de mammifères il y a environ 30 ans. Alors, c'est une méthode qui est très intéressante, qui est très forte. Le problème, c'est qu'elle ne permet pas d'avoir de barre d'erreur sur ces estimations. Et puis, la comparaison de profils n'est pas toujours un travail très facile. Vous le voyez, les différences ne sont pas toujours évidentes lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Donc, il a fallu développer des techniques un peu plus sophistiquées pour aller plus loin afin de pouvoir exploiter la structure des assemblages phoniques. Donc, c'est ces techniques sur lesquelles je vais vous présenter maintenant. Et ces techniques, on va les appliquer à différents types de modèles. Le premier modèle que l'on va étudier, sur lequel on reviendra, c'est un environnement dont on vous a déjà parlé ici. C'est la zone fossilifère de Toros Menala, dans le Miocène du Tchad, il y a environ 7 millions d'années, et qui est donc le berceau de Toumaï. Et le but de notre exercice aujourd'hui sera de comparer la faune mammalienne et le signal environnemental qu'elle porte avec environ un peu plus d'une cinquantaine de communautés mammaliennes actuelles pour voir quel signal environnemental on peut en extraire. Alors, en pratique, que ce soit dans les faunes actuelles ou dans les faunes fossiles, on identifie le maximum de matériel, les espèces. On essaye d'aller à la détermination la plus précise possible, si possible l'espèce, parfois le genre. Et puis on va ainsi détailler une liste faunique pour chaque localité et pour chaque type d'environnement. En général, que vous soyez écologiste ou paléoécologiste, votre travail, c'est d'abord une feuille de calcul, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord construire un tableau à double entrée. Vous allez regarder dans quelle localité vous trouvez quelle espèce et vous allez mettre ici l'abondance, le nombre d'individus pour chaque espèce. Ce sont des matrices, des tableaux simples qui sont en fait la base de tous les travaux en écologie et en paléoécologie. Si vous avez la chance d'avoir les abondances, eh bien, n'hésitez pas à les rentrer dans votre tableau. Elles sont très précieuses, très informatives. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours disponibles ou alors elles sont peu fiables. Donc souvent, on se contente de tableaux de présence-absence. L'espèce est là ou n'y est pas. Évidemment, puisque notre objectif aujourd'hui est de caractériser la diversité écologique, on va également faire d'autres tableaux en parallèle où l'on va, pour chacune des espèces, ici des taxons, hein, c'est le nom générique qu'on peut donner aux espèces ou aux différents genres, par exemple, eh bien, on va lui donner un code pour caractériser sa masse, son type de régime alimentaire ou sa locomotion. On a défini plusieurs types de catégories écologiques avec leurs petits symboles pour favoriser les analyses. Et ces catégories, Dieu merci, sont utilisées par de très nombreux chercheurs. Elles sont reconnues comme assez discriminantes. On arrive à distinguer les différentes communautés en utilisant ces catégories. Elles sont discutables, elles sont négociables, mais en général, elles changent peu, que ce soit pour les catégories de masse ou pour les catégories de régime alimentaire. Alors, tout de suite, un petit bémol. Régime alimentaire, il y a peu d'organismes qui sont restreints à un seul type de régime alimentaire. Ici, on parle plus de préférence alimentaire. Quelle est la source de nourriture préférentielle de notre espèce ? Il y a toujours des régimes mixtes, et on peut pondérer nos analyses en prenant un tiers de frugivorie, deux tiers de folivorie, etc. Alors, pour vous montrer le pouvoir discriminant de ces données, voici des faunes actuelles qui ont été représentées sur un diagramme en deux dimensions, où l'on met ici simplement le pourcentage de mammifères qui ont une locomotion terrestre et ici, le pourcentage de mammifères qui ont un régime alimentaire à base de fruits. On projette nos communautés actuelles sur ce diagramme, et vous le voyez, elles sont représentées ici sur ce nuage qui est très aplati, c'est presque une droite. Et la bonne nouvelle, c'est que ce gradient ici, cet axe des abscisses que l'on peut lire de droite à gauche ou de gauche à droite, eh bien, correspond en fait à un degré d'ouverture des milieux. C'est-à-dire que l'on passe d'une savane herbeuse, d'une prairie complètement ouverte, quasiment sans végétation arbustive, à une forêt équatoriale dense. Et vous voyez que la discrimination est excellente, et je vous rappelle, elle est simplement basée sur le spectre écologique de nos mammifères. On peut également utiliser d'autres facteurs discriminants, comme par exemple le pourcentage de grands mammifères brouteurs par rapport toujours à leur pourcentage terrestre. Alors, vous voyez qu'une fois que l'on dispose de ce canevas actuel, on est en plein principe d'actualisme, eh bien, il suffit de refaire exactement les mêmes mesures avec nos assemblages fossiles et de venir les projeter dans ce nuage. Par exemple, c'est ce que Kay Reid avait fait dans un article en 1997 pour des communautés fossiles du Pliopléistocène, donc relativement récent dans les temps géologiques, dont certaines contiennent des hominidés fossiles. Et vous voyez qu'on a quasiment une lecture directe des paléo-environnements sur ce diagramme, puisque, par exemple, Tulubor se rapproche de zones ouvertes arbustives, alors que des sites comme l'Aitoli 1 et 7 sont très proches d'environnements de forêts boisées fermées. Ceci peut être fait et a été fait par de très nombreux auteurs dans différents contextes, et vous voyez qu'il y a ici une lecture paléo-environnementale assez globale, hein, je vous l'accorde, mais on a déjà un signal environnemental très fort, simplement basé sur ces catégories écologiques. Alors le problème, lorsqu'on est un écologiste ou un paléo-écologiste, c'est que vous avez plusieurs dizaines d'espèces à traiter, dans plusieurs dizaines de communautés différentes, et chacune de ces espèces est codée pour au moins 3 ou 4 paramètres écologiques. C'est-à-dire que vous avez non pas 1 ou 2 données à traiter, mais un espace multidimensionnel qu'il faut manipuler. Et ceci, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que les espèces ne sont pas présentes en un seul endroit, elles sont leur abondance, leur fréquence, et dépendantes de gradients environnementaux. Alors on a des données multidimensionnelles, on a des gradients environnementaux, et tout ceci, il faut essayer d'en tirer un signal le plus précis possible. Alors pour faire ceci, on dispose de 2 armes. La première, ce sont des techniques qu'on dit de classification. C'est simplement observer les similitudes écologiques qu'il y a entre 2 communautés et les représenter sous la forme d'un arbre, aussi appelé dendrogramme, pour montrer quelles sont les communautés d'espèces qui sont les plus proches entre elles et quelles sont leurs distances par rapport aux autres types de communautés en relation avec leur paléo-environnement. Si vous voulez, ça vous permet d'avoir, de manière très simple et assez intuitive, une idée de la distance qui sépare des différentes communautés ou différents assemblages fossiles. Les autres techniques, les techniques d'ordination, sont un petit peu plus compliquées, puisqu'on va considérer directement toutes les dimensions écologiques, taxinomiques de notre communauté, et c'est un espace à plusieurs dimensions. Le cerveau humain arrive à gérer 3, parfois 4 dimensions, mais pas plus. Or ici, on parle d'une 20aine ou d'une 30aine de dimensions. Donc l'objectif va être de considérer un nuage multidimensionnel, et on va essayer de projeter ce nuage de telle manière que l'on puisse voir le maximum de variations. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ces techniques, simplement, le principe, il est très simple. Si vous regardez un dromadaire et un chameau en face, bien en face de vous, vous aurez du mal à les distinguer. Par contre, si vous leur faites subir une rotation et que vous les regardez de profil, vous allez tout de suite voir qu'il y en a un qui a une bosse et l'autre 2 bosses. On n'a pas changé les animaux, on a simplement regardé l'angle sous lequel on le regardait pour observer le maximum de variations, pour pouvoir les discriminer de manière la plus simple. Eh bien, c'est exactement ce que ces techniques statistiques font. Elles vont tourner nos données, si vous voulez, les projeter, pour qu'on puisse en interpréter le signal le plus fort. Et le signal le plus fort, c'est le signal environnemental dont il est question aujourd'hui. Alors pour vous montrer un peu la puissance de ces techniques statistiques, on s'est intéressé ici uniquement à la composante mammalienne composée de bovidés, c'est-à-dire de grands mammifères, ici uniquement africains, et on les a projetés sur un plan donc à 2 dimensions, et on les a projetés en fonction des milieux actuels que l'on connaît très bien. Et vous voyez que ces techniques isolent 3 gros paquets. Un premier paquet en bas qui correspond à tous les milieux qui sont ouverts et secs, ceux qui sont représentés par cette image. Un paquet très éloigné qui correspond à toutes les zones humides, proches de fleuves ou de lacs. Et puis enfin, les milieux boisés forment enfin le 3e paquet, ici en haut à gauche. C'est-à-dire que même si on prend une seule partie de la faune mammalienne, on arrive encore à distinguer très bien, très nettement, des grands types de paléo-environnement. Il existe encore d'autres techniques plus simples, toujours utilisant ces bovidés, donc une seule composante de la communauté mammalienne. Eh bien, on s'est rendu compte que la proportion entre les différentes tribus, les différents groupes de bovidés, sont des excellents marqueurs des types d'environnement. Il existe certains rapports, comme celui-ci, par exemple. On regarde deux tribus de bovidés, les Redoncini et les Alcelafini, représentés par exemple par le cob et par le gnou noir. Et on a remarqué que lorsque ce rapport ici est supérieur à 20, eh bien, le paysage est largement dominé par les zones boisées. Et s'il est inférieur, cela traduit une prédominance des aires ouvertes. Ceci, évidemment, est testé sur l'actuel et on va, une fois de plus, le transposer aux assemblages fossiles. Il existe encore toute une autre série de techniques. On ne va pas en faire un catalogue. Je finirai avec les analyses discriminantes, qui sont des proches parentes des analyses des correspondances dont je vous parlais tout à l'heure, et qui permettent, là encore, de discriminer, plus ou moins bien, en tout cas les milieux fermés. Toutes les forêts ici représentées par ces points verts sont bel et bien dans un coin, ici le cadre en gauche de notre projection. Les milieux ouverts et intermédiaires, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, sont plus ou moins discriminés. En tout cas, le long de l'axe 1, elles sont plus ou moins chevauchantes. Voilà, nous avons maintenant des données, nous avons des techniques statistiques compliquées, nous avons un référentiel actuel qui nous permet de discriminer différents environnements. On pourrait tout simplement mettre directement notre assemblage fossile dans ces espaces et regarder la réponse. Le problème, c'est que, et on en a eu de très nombreuses discussions avec le professeur Brunet, c'est qu'on ne peut pas faire ça directement sans prendre de précautions. Tout simplement parce que ces techniques statistiques vous donneront toujours une réponse. Elles vous projetteront toujours votre point quelque part dans votre espace. Elles vous diront toujours si c'est un milieu plus ou moins boisé ou plus ou moins ouvert. Ces techniques, elles ne peuvent pas être meilleures que les données qu'on y injecte. Il faut donc, avant toute chose, prendre garde à la qualité de nos données. Et vous allez voir que, lorsque l'on est paléontologue, la qualité de ces données est un élément majeur, puisqu'il existe de très nombreux pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. En effet, nous disposons d'un échantillon fossile et nous essayons de reconstruire la communauté biologique dont il est issu. Alors, une communauté biologique, aujourd'hui, lorsque les individus meurent, ils ont leurs restes squelettiques. Ces restes squelettiques peuvent être très rapidement enfouis. Ça, c'est le rêve de tous les paléontologues. Si c'était le cas, on aurait beaucoup plus de fossiles qu'en réalité. Le problème, c'est que beaucoup de ces restes squelettiques vont rester exposés un certain temps et donc subir les affres du temps, de la météo, être fragmentés, éparpillés, triés, mélangés. Ils vont subir un certain nombre d'altérations physiques, chimiques. Ils vont être parfois mélangés sur plusieurs tranches de temps successives avant d'être finalement, enfin, enfouis. Donc vous voyez que ce type de phénomène peut complètement brouiller les pistes. Et si on mélange deux communautés différentes qui vivaient dans des environnements différents, le signal fossile qu'on va en extraire sera complètement faux. Et on n'aurait aucune information sur les paléo-environnements. Mais ce n'est pas fini, il existe après enfouissement des processus d'altération, de recristallisation, de dissolution, qui nous concernent peu pour ce que l'on fait ici, mais qui peuvent être un biais très important pour les géochimistes qui utilisent des techniques de géochimie. Et c'est toujours pas fini, puisque tout ceci forme un assemblage fossile, mais lorsque vous allez sur le terrain, il y a un certain volume disponible dans la Jeep que vous conduisez, vous ne pouvez pas tout échantillonner. Tout le monde n'échantillonne pas de la même manière, c'est-à-dire que l'échantillon que vous avez n'est pas forcément représentatif du véritable assemblage fossile présent dans les roches. Il peut y avoir d'autres biais ici liés réellement au travail des paléontologues qui sont plus ou moins soigneux, mais dont il faut tenir compte pour nos analyses. Donc vous voyez qu'avant d'aller plus loin, il faut réellement se poser la question de la qualité de notre échantillon fossile avant de le projeter dans nos espaces, avant de lui appliquer n'importe quelle technique statistique. Alors il existe heureusement différentes techniques qui permettent justement d'évaluer la qualité de notre échantillon fossile. On peut déjà voir si on a suffisamment échantillonné. Par exemple, on a notre sac plein de fossiles, on va prendre le premier échantillon, on regarde s'il représente une espèce, c'est une espèce nouvelle. On va donc rajouter un point le long de cette courbe, on va cumuler le nombre d'espèces. Et bien si à chaque fois vous répétez cette opération, le nombre d'espèces que vous allez décrire va augmenter progressivement jusqu'à atteindre un plateau. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à échantillonner sur le terrain des fossiles. À chaque fois, vous allez échantillonner des espèces que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous avez réellement épuisé, si vous voulez, le réservoir de fossiles. Et donc, votre échantillonnage sera suffisant. Alors, il existe différentes techniques dérivées de ce principe. Mais voilà déjà un bon indicateur pour éviter tous les biais liés à l'échantillonnage qui peut être incomplet. D'autres techniques, ça va être, on vous parlait de barre d'erreur tout à l'heure, eh bien c'est de répliquer plusieurs fois votre échantillonnage pour avoir une idée de sa variation, de sa variabilité. Si on échantillonne une seule fois sur un seul point, on risque bien d'avoir simplement un tout petit échantillon qui n'est pas forcément représentatif du véritable assemblage. Donc il faut multiplier et remultiplier ces analyses pour pouvoir dire ou ne pas dire si les différences que l'on va observer entre deux communautés ou deux types de paléo-environnement sont significatives ou pas. Enfin, les différents biais qui peuvent exister par rapport au transport, au tri ou au mélange, peuvent être observés également par la nature des pièces squelettiques qui sont préservées. Pour le secteur de Toros Menala au Tchad dont il est question et sur lequel on va revenir dans un instant, on a représenté ici, par toutes ces barres en couleur, la densité des différentes pièces squelettiques. Cette densité, elle est très importante parce qu'elle confère à ces ossements leur susceptibilité de transport. Plus une pièce est légère, plus elle aura tendance à être transportée rapidement. Et donc vous allez ainsi trier de manière sélective les pièces squelettiques et les espèces qui peuvent être présentes. Alors la bonne nouvelle pour toute l'équipe qui a travaillé au Tchad, c'est que la densité des pièces squelettiques représentées par ces assemblages, eh bien toutes ces catégories sont représentées dans tous les sites que nous avons étudiés, ou presque. Et notamment, celui qui a livré le fameux Toumaï, eh bien, représente une faune et des pièces squelettiques qui ont tout type de densité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tri sélectif qui aurait pu biaiser notre assemblage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la reconstruction que l'on va faire des environnements de Toumaï ne sont pas affectés par ce biais. Enfin, dans un travail réalisé par Soisic Le Fur, dans une thèse récemment, on s'est amusé à regarder quel était l'effet de l'appauvrissement artefactuel des communautés modernes. C'est-à-dire, on va simuler le processus de fossilisation. On prend des assemblages actuels et on va les dégrader en les appauvrissant, notamment en espèces de petite taille, qui sont celles qui se préservent souvent le moins bien ou que l'on échantillonne avec le plus de difficultés. Alors, voici, dans un espace à deux dimensions, les communautés mammaliennes actuelles en Afrique. C'est un nuage qui est assez bien représenté, et du côté droit, ici, de ce diagramme, seront représentées les communautés où prédominent les formes frugivores et arboricoles. Du côté droit, ce sont plutôt les formes de type brouteur. En bas, ce sont les formes de grande masse. Et en haut, le nuage est attiré par les espèces de type fouisseur ou insectivore. Alors, ceci, ce sont des environnements actuels que l'on connaît bien, que l'on maîtrise parfaitement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va appauvrir artificiellement ces communautés de manière aléatoire. On va piocher les petites espèces et les éliminer du jeu de données pour voir la conséquence que ça a. Alors, quand l'appauvrissement est faible, les nuages sont encore superposés, ici avec les points jaunes. Et puis, lorsqu'on continue cet appauvrissement, eh bien, vous voyez que les communautés que l'on est en train de fabriquer, ces pseudo-communautés fossiles, eh bien, sont toutes ou presque descendues dans le quart inférieur gauche de mon schéma. C'est-à-dire que lorsque l'on appauvrit une faune moderne en petites espèces, celle-ci va donner un signal écologique qui est attiré à la fois par les espèces qui broutent de l'herbe et celles qui sont de forte masse. Alors retenez bien ce résultat, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un biais dans les petites espèces, nos communautés vont donner un signal proche d'environnements qui sont dominés par les formes brouteurs et de grande masse. Donc voilà quelques précautions que l'on peut prendre avant de déduire réellement les paléo-environnements. Et c'est, j'avais gardé le meilleur pour la fin, hein, c'est de cela dont il va être question maintenant. On va prendre comme exemple les faunes de 7 millions d'années dans le Miocène supérieur du Tchad. Alors vous le savez, ces faunes, elles nous intéressent en particulier puisqu'elles contiennent le plus ancien hominidé connu à l'heure actuellement, Toumaï, le Sahelanthropus, qui a été trouvé dans ce secteur fossilifère, dans le désert du Djourab. Voici le champ de fouilles, et à partir de ceci, il faut reconstruire un paléo-environnement. Alors, on a à notre disposition un jeu de données absolument fabuleux, qui est le résultat de très nombreuses expéditions et du travail des centaines de collègues dont je vous mentionnais l'existence tout à l'heure. On a un peu plus de 300 localités, plus de 10 000 fossiles ont été mis au jour, et la majorité d'entre eux, à peu près 9 000, représentent des mammifères. Alors, lorsque l'on étudie tous ces sites de Tauros Menala, avec les techniques que je vous ai mentionnées tout à l'heure, voici ce que l'on observe. La première chose, c'est qu'il existe un groupe de sites qui se ressemblent énormément. Ils se regroupent ici dans ce rectangle jaune, et ce sont les mêmes que l'on retrouve ici dans cette petite patate jaune. Les autres sites forment un ensemble assez un peu plus hétérogène, représenté ici par ce polygone rouge. Très important, certains sites de Tauros Menala contiennent les représentants de Toumaï, et vous le voyez, tous ces sites tombent dans ce nuage rouge. Alors pour l'instant, on n'a que des nuages, on n'a pas d'interprétation. Alors lorsque l'on regarde maintenant nos données, qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'à Tauros Menala il y a deux types d'ensembles, on se rend compte que ce nuage qui contient Toumaï est un nuage où prédominent certaines formes, comme des formes omnivores, frugivores, arboricoles ou de petite taille. Et heureusement pour nous, parce que l'autre ensemble de sites que l'on a observé est largement dominé par des brouteurs et des formes de grande taille. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose sur les techniques d'appauvrissement que je vous mentionnais tout à l'heure. Vous vous rappelez que plus on va vers les brouteurs et les formes de grande taille, plus le biais par rapport aux petites espèces doit être important. Eh bien, cet ensemble de sites ici est peut-être biaisé parce que les petites espèces n'ont pas été préservées ou pas encore été échantillonnées. Et la bonne nouvelle, c'est que Toumaï ne fait pas partie de cette ignoble petite patate jaune. Il est bien dans cet ensemble-là, c'est-à-dire que on est certain que les déductions environnementales que l'on va faire sont robustes et pas biaisées, au moins sur cette caractéristique-là. Alors, voici les résultats, certains des résultats obtenus récemment avec ces techniques de projection. Lorsque l'on projette certains des communautés mammaliennes contenaient Toumaï et ses différents représentants, eh bien, tous ces sites se projettent dans un référentiel actuel au sein de ces cercles rouges que je vous présente ici. C'est-à-dire des milieux relativement intermédiaires entre des milieux complètement fermés et des milieux complètement ouverts. En tout cas, il est certain que Toumaï évoluait dans des environnements où coexistaient plusieurs types d'habitats et où les formations végétales étaient ouvertes et intermédiaires, c'est-à-dire des savanes herbeuse, boisée, buissonnante. Voici un premier résultat. Autre résultat, toujours avec ces espaces, cette fois-ci bidimensionnels, lorsque l'on s'intéresse aux sites qui contenaient Toumaï et les sites qui sont proches, qui pourraient contenir éventuellement des représentants de cette espèce, hein, tous ces ensembles de Tauros Menala, Notre cercle tombe ici et caractérise des formations qui aujourd'hui correspondent à des zones herbeuses boisées ou arbustives et buissonnantes. On peut reprendre d'autres techniques, d'autres paramètres, le mode locomoteur, le type de régime alimentaire. On va retomber encore une fois sur ce résultat avec d'autres critères. Eh bien, on obtient, vous le voyez, notre cercle, tous nos sites fossiles tombent ici, le site des Toumaï tombe par là, et ça, on est encore dans le spectre de variation des communautés actuelles qui sont dominées par des couverts végétaux de type herbe boisée ou arbustif buissonnant. Donc voilà un signal très fort paléoécologique qui nous permet d'avoir les grandes composantes végétales qui étaient à disposition de Toumaï, voici 7 millions d'années. Si on reprend cette fois-ci uniquement les fameuses tribus de bovidés dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut une fois de plus projeter les communautés mammaliennes qui contenaient Toumaï, et vous voyez que cette fois-ci, une autre composante de l'environnement est mise en évidence, elle n'est pas du tout antinomique avec les autres résultats, c'est une composante humide. Ce n'est pas vraiment une surprise, tous ceux qui sont allés sur le terrain au Tchad ont ramassé à la pelle des fossiles de poissons ou de crocodiles, la composante aquatique était forcément présente, on voit qu'elle est assez importante et elle a laissé également son empreinte sur les mammifères. Donc même si les poissons n'avaient pas fossilisé, les mammifères étaient quand même capables de communiquer cette information aux paléoécologistes. Donc en conclusion, on a fait le tour. Vous voyez que grâce à ces études statistiques, qui sont, je vous le rappelle, complémentaires des autres approches de reconstruction environnementale, eh bien ce que l'on peut déduire, c'est que Sahelanthropus vivait dans un environnement, je dis bien un environnement et pas un habitat, on rediscutera de cette nuance dans un instant, où les formations végétales, arbustives et buissonnantes, étaient majoritaires, elles étaient prédominantes dans son environnement. Il existait également des zones humides et des patchs forestiers. Heureusement pour Toumaï, on en a parlé tout à l'heure, il faut des arbres. Tout ce que l'on sait, c'est, comme le disait également le professeur Brunet tout à l'heure, ce n'est pas une forêt tropicale humide. Cette forêt était présente, mais sous forme de petits îlots forestiers. Une autre remarque qui sont issues des résultats assez récents nous ont montré que les sites qui contiennent des hominidés au Tchad tendent à avoir des assemblages phoniques qui sont significativement plus riches que les autres sites. Si vous vous rappelez bien, la richesse en espèces était liée à l'hétérogénéité du milieu. Eh bien ici, on a encore un signal très fort, tout à fait cohérent avec ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire que les environnements où vivait Toumaï étaient des environnements hétérogènes, très riches en espèces, et qui correspondent bien aux résultats issus de ces travaux et des travaux de géochimie isotopique. Voici le type de paysage. Vous avez dû déjà en voir quelques images, je pense, quelques représentants caractéristiques de ces faunes, dans lesquels ont certainement émergé notre lignée. Alors ceci, c'était pour le site de Toros Menala, pour le Tchad, il y a 7 millions d'années, dans le Miocène supérieur. Il est intéressant de voir comment des sites fossiles, des assemblages fossiles de mammifères, quelle information paléo-environnementale ces autres sites africains amènent. Voici 11 sites à peu près contemporains de Toros Menala. Ils sont un peu plus jeunes, mais ils sont toujours dans le Miocène supérieur. Il y en a deux autres qui ont livré les hominidés anciens dont on a parlé précédemment, Ardipithecus et Aurorine. Et voilà comment, le long d'un gradient environnemental avec une canopée, donc un couvert végétal de plus en plus dense, comment se disposent ces différentes communautés mammaliennes. Toros Menala avec Toumaï se situe ici, dans une composante, vous le voyez, arbustive, boisée, dont on vient de parler. Et vous voyez que certains sites sont largement dirigés vers des forêts très denses, tropicales, alors que d'autres sites sont vraiment des prairies sèches dans lesquelles il n'y a pas beaucoup, sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de supports sur lesquels grimper. Alors si on fait un zoom sur les sites qui contiennent ces hominidés anciens, ces premiers hominidés, Toros Menala, Lucaino et Asakoma, voici leur étendue, non pas temporelle, mais végétale. Tauros Menala, on a dit qu'il se situait dans ce type d'environnement. Lucaino, qui a livré Aurorine, est exactement dans ce, à peu près dans le même type de couvert végétal. Et puis Asacoma, qui a livré Ardipithecus, est un milieu légèrement plus fermé. Tous ces sites à hominidés, et c'est ça que l'on recherche, ont une petite partie commune, une partie arbustive assez importante, qui est pour l'instant le seul dénominateur commun que l'on a de manière précise et quantifiée pour ces premiers hominidés. Alors c'est une petite information, mais elle est importante et elle sera complémentaire des autres approches dont je vous mentionnais l'existante en introduction. C'est-à-dire que les trois localités qui ont livré des hominidés fossiles possédaient forcément une composante arbustive, et vous avez compris que les méthodes que je vous ai présentées dans la dernière heure, eh bien, permettent de mettre en évidence les composantes végétales qui sont dominantes. On ne définit pas l'habitat de Toumaï. La prétention n'est pas celle-ci. On n'a pas la résolution suffisante pour le faire. Un environnement, surtout lorsqu'il est hétérogène, contient de différents types d'habitats, de niches écologiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le paysage vraiment tracé à la brosse et des grandes composantes environnementales qui les composent. Le problème de cette approche, il y a aussi des limites, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre un gradient et une mosaïque de paysage. Tout à l'heure, dans la conférence précédente, vous l'avez vu, on a des organismes aquatiques, d'autres de forêts, d'autres de savanes très ouvertes. Eh bien, on ne peut pas savoir exactement si ces environnements, si ces habitats sont disposés le long d'un gradient ou s'ils sont en patch, en mosaïque. Alors, on ne peut pas le savoir statistiquement, on peut le savoir en regardant directement les fossiles, puisque s'il y a un gradient environnemental, certains fossiles seront transportés sur des longues distances. Et ça, ça laisse des traces et on peut le voir. Donc cette différence, elle peut être faite, mais pas par les techniques que je vous ai mentionnées ici. Enfin, il semblerait que Sahelanthropus vivait dans un milieu qui serait légèrement plus ouvert que les autres hominidés anciens qui l'ont suivi, notamment Aurorine et Ardipithecus. Donc une image qui permet en un clin d'œil d'avoir un aperçu le long des millions d'années qui ont terminé le Miocène, 8 millions, 7 millions, 6 millions ici, différents types de formations géologiques qui ont livré des communautés fossiles. On a représenté ici, par un jeu de couleurs, l'ouverture ou la fermeture du milieu, c'est-à-dire l'ouverture dans les savanes et la fermeture du côté des forêts. Tauros Menala avec Toumaï se situe ici. C'est un milieu, comme on l'a dit, avec une composante arbustive, mais qui tend tout de même avec des composantes ouvertes qui sont assez fortes, alors que les autres sites à hominidés, plus jeunes, tendent à être un petit peu plus fermés. Vous voyez que des sites contemporains ont des environnements très différents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne livreront pas d'hominidés, mais pour l'instant, les hominidés que l'on a retrouvés, et ce n'est pas une surprise par rapport à ce que l'on a entendu tout à l'heure, ont toutes besoin d'une composante arbustive. Enfin, pour finir, un peu comme les chercheurs de champignons, ce qui excite le plus les paléoanthropologues, c'est de savoir si parmi tous les fossiles et les espèces fossiles que l'on trouve associées aux hominidés, est-ce qu'il y en aurait qui seraient indicatrices de la présence de ces hominidés ? Vous n'irez pas chercher des truffes au pied de peupliers ou de sapins, plutôt du côté des chênes. Eh bien, est-ce qu'il y a des espèces animales qui nous indiqueraient la présence potentielle d'hominidés ? Alors malheureusement, la réponse, on ne l'a pas encore trouvée, à notre grande déception. On a quelques pistes de travail. Pour l'instant, c'est une surprise et c'est une réponse plutôt décevante. On a remarqué que plusieurs espèces, comme le porc-épic, par exemple, l'oryctérope, la girafe ou l'impala, eh bien, sont des espèces qui sont très souvent associées à tous les hominidés anciens, que ce soit Toumaï, mais aussi Ardipithèque ou Aurorine. Si ce n'est pas cette espèce ou ce genre, ce sont des genres qui ont le même rôle ou les mêmes caractéristiques écologiques. Donc ça, c'est encore un champ de recherche inexploré dans lequel on est en train d'essayer de trier les éléments biaisants et les éléments réellement informatifs. Mais vous comprendrez que si l'on a des informations paléoécologiques pour retracer les hominidés anciens, on va pouvoir enrichir la documentation de notre histoire. Je vous remercie pour votre attention.